écoute encore de la musique de film 8 et demi avec le Carla Bley Band.
Thank you. encore un peu de musique, puis une invitée de la coordination genevoise pour le droit d'asile nous parlera de l'enjeu de la votation de ce week-end relatif à la révision de la loi sur l'asile.
Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune et à quelques jours de la votation de ce week-end. Vous avez peut-être une décision à prendre encore, ou vous vous demandez peut-être si la révision des deux lois sur l'asile apporte une solution, ou si les problèmes de la politique d'asile ne devraient pas être abordés d'une autre manière. Je m'adresse à vous au nom et en tant que représentante de la coordination genevoise pour le droit d'asile, qui se réunit en assemblée générale une fois par semaine et qui réunit un nombre important de personnes, voire d'organisations, d'organismes de l'Église, de parrainage, qui travaillent pour la défense du droit d'asile dans notre pays. Nous sommes opposés aux mesures de dissuasion vis-à-vis des personnes défavorisées et persécutées. Et c'est pour ça que nous vous recommandons de voter non et de rejeter la seconde révision du droit d'asile que nous considérons une loi scélérate. À quelques jours du 5 avril, nous aimerions aussi vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à notre campagne contre la révision de la loi sur l'asile et de la loi sur les étrangers. Si vous le voulez, si vous le pouvez, nous vous demandons encore une dernière chose. Téléphonez. Oui, téléphonez jusqu'à ce dimanche à vos amis. Dites-leur d'aller voter. Devant un enjeu aussi grave, l'abstentionnisme n'est pas concevable. Face à la xénophobie et à l'arbitraire, les réfugiés ont besoin de savoir que de très nombreux Suisses se tiennent à leur côté, quoi qu'il arrive. Effectivement, la mobilisation autour du référendum ces derniers temps a été pour nous et pour beaucoup de personnes l'occasion de multiplier les différentes actions de solidarité envers les personnes en détresse. En second lieu, nous pensons que nous avons pu favoriser une prise de conscience contre le racisme rampant de notre société, qui s'est cristallisé aujourd'hui contre les réfugiés, qui devraient être les boucs émissaires d'une situation sociale de plus en plus difficile, vu la crise économique dans laquelle nous nous trouvons. En troisième lieu, une partie de plus en plus importante de l'opinion publique, d'organisations ou même de la presse n'est plus prête à suivre Madame Kopp dans sa politique d'asile de retour aux années les plus noires de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Suisse refoulait des réfugiés juifs. Juste une petite parenthèse, je me permets de vous rappeler que l'argument qui sert aujourd'hui à renvoyer les Tamouls au Sri Lanka en disant que ces personnes doivent assumer des risques résiduels dans leur pays est exactement le même argument qui a été utilisé pour refouler à l'époque les Juifs à la frontière, en disant que les risques résiduels étaient à assumer par ces personnes qui ne provenaient en apparence pas d'un camp de concentration, puisqu'elles y avaient échappé. Alors donc, on pouvait les renvoyer sans risque dans un pays duquel on savait qu'elles n'allaient plus revenir. La campagne de la votation se termine bientôt. Pour nous, la solidarité vis-à-vis des personnes en détresse, vis-à-vis des réfugiés, ne se termine pas. Parrainage, accompagnement, pétition, dans toute la Suisse, des milliers de personnes ont commencé à s'impliquer dans un travail de soutien à l'égard des candidats à l'asile, dont ils ont fait la connaissance fortuitement ou à l'intérieur d'un centre d'accueil ou d'un organisme de défense. Malgré la difficulté de se faire entendre des autorités, certaines concessions ont pu être arrachées et plusieurs cas ont pu être réglés par l'obtention d'un permis humanitaire. À défaut de réseaux d'hébergement, se sont constitués pour permettre à des requérants qui cherchent une autre issue de disposer d'un peu de temps pour régler leur dossier. Pour nous, toute personne qui demande l'asile en Suisse est une personne réfugiée. Nous nous opposons aussi à cette distinction de faux réfugiés et de vrais réfugiés, car l'octroi d'asile est un problème de droit de l'homme et doit le rester. Or, en Suisse,
nous nous habituons progressivement à une politique d'asile qui tient de moins en moins compte des droits de l'homme. La politique d'asile devient une politique économique, une politique sociale, une politique de l'environnement, et les choses se mélangent de plus en plus et permettent de plus en plus le racisme. Pour nous, quels sont les principaux dangers de la révision? Pourquoi nous nous opposons à cette loi? Premièrement, cette loi contient une clause qui s'appelle clause d'urgence, voire la clause de la barque pleine. Avec la révision, le Conseil fédéral se voit attribuer les pleins pouvoirs en matière d'asile. Et grâce à ce chèque en blanc, le gouvernement pourra ainsi en tout temps et même en temps de paix déroger la loi et restreindre ou supprimer l'octroi de l'asile s'il devait constater un afflux extraordinaire de réfugiés. Or, la loi ne définit nulle part ce qu'est un tel afflux extraordinaire. Cette notion pourra ainsi varier au gré des circonstances politiques, momentanées ou d'échéances électorales. Comme vous savez, Vigilance a proposé un référendum pour cette année qui ressemble étrangement à la nouvelle loi. Le deuxième danger pour nous que contient cette nouvelle loi, c'est les postes frontières obligatoires, c'est-à-dire avec une présence de l'armée et de corps de sécurité à certains postes de frontières. Selon les nouvelles dispositions, les demandes d'asile ne pourront être déposées qu'à certains postes frontières désignés, qui ne sont pas encore très clairs. La loi ne dit pas ce qu'il adviendra des requérants d'asile entrés clandestinement en Suisse. Or, comme vous savez, le 90% des demandeurs d'asile se voient contraints de franchir la frontière de manière illégale. Et les autorités leur refusent le visa nécessaire à l'entrée en Suisse. Ces 90% de clandestins le sont parce qu'ils doivent quitter leur pays dans l'urgence, sans papier. Et dans certains pays, il n'est pas possible d'obtenir des papiers ou bien on les reçoit grâce à des sommes insurmontables économiquement. Et donc, pour nous, une fois de plus, là, il n'y a pas de faux et de vrais, de clandestins et de légaux. Mais la mise sur pied des points de passage obligés aux frontières fait partie de ce dispositif de dissuasion. Elle sert en outre de couverture légale en vue d'appliquer un traitement plus sévère à l'égard des requérants entrés clandestinement en Suisse. Selon le projet d'ordonnance d'application de la nouvelle loi, ces requérants risqueront d'être refoulés vers des centres de tri soumis à une audition sommaire en vue de déterminer s'il n'y a pas lieu de les renvoyer vers un pays tiers ou de rejeter immédiatement leur demande. Qu'est-ce que c'est que ces centres de tri? Ce sont des centres de séjour et d'établissement qui sont souvent en dehors des villes, en dehors des lieux d'habitation plus grands, qui marginalisent encore beaucoup plus les personnes qui demandent l'asile, parce que, évidemment, les personnes n'ont pas l'accès à des cours de langue, sont souvent isolées aussi au niveau de la population et des œuvres d'entraide. Et cette détention constitue donc pour nous une grave entorse à la liberté personnelle. Dans ces centres de détention ou de refoulement, selon la révision de la loi, les personnes qui seraient enfermées devraient y rester pendant 30 jours en vue de leur expulsion. Le Conseil fédéral pourra répartir les requérants d'asile entre les cantons, en outre. Donc ça veut dire qu'on mettra des personnes à l'arbitraire, un peu n'importe où, dans des centres de tri construits à la campagne. Il y en a déjà certains, comme par exemple un qui est en train de se construire à Neuchâtel, certains dans le canton de Saint-Gall, dans la campagne, et en Suisse intérieure. Et comment ces personnes servent de main d'œuvre très mal payée à l'agriculture locale? Et toutes ces mesures, évidemment, ne favorisent pas leur insertion sociale. Selon les dispositions actuelles, les autorités fédérales peuvent, sur la base uniquement du dossier et sans entendre le requérant, rejeter une demande d'asile lorsqu'elles estiment manifestement infondée la demande d'asile. La révision prévoit de traiter toutes les demandes comme celles qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient considérées manifestement infondées. Alors ça veut dire que l'examen des dossiers sera soumis à un certain nombre d'experts de la police des étrangers, et on connaît leur formation sociale, historique et humanitaire. Les cas des réfugiés ne pourront pas être écoutés. Les personnes qui ont demandé l'asile en Suisse ne pourront pas exposer les motifs de leur détresse et les motifs de leur asile. Une fois de plus, ça sera le libre arbitre des autorités face aux réfugiés.
Vous écoutez Radio Pleine Lune sur 93.8 MHz. Nous vous rappelons notre téléphone si vous avez quelque chose à ajouter ou à dire. 50 40 51 41 023 depuis la Suisse.
Thank you.
Encore un dernier point sur lequel j'aimerais insister, qui me paraît particulièrement discriminatoire vis-à-vis d'une personne qui cherche l'asile en Suisse à l'intérieur de cette loi, c'est que d'après le projet de cette loi soumis à la votation, l'assistance apportée aux requérants devra si possible être octroyée en nature. Ça veut dire des bons d'alimentation, ça vous rappelle certainement quelque chose, des bons d'habillement, etc. Cette mesure spécialement humiliante diminuera encore les chances pour que le requérant puisse sortir de son isolement. Je pense que vous savez que déjà actuellement, dans certains endroits près de Berne, à Thun, les requérants tamouls ne peuvent acheter qu'avec des pièces en nickel qui valent 2 francs. C'est l'unique argent qu'on leur donne de la part de l'assistance sociale, avec lequel ils ont le droit d'acquérir n'importe quoi en Suisse. Ce sont des mesures toutes dans l'ensemble qui sont discriminatoires, qui sont infantilisantes et dégradantes, et c'est une raison en plus pour laquelle, évidemment, nous refusons cette loi. Mais il y a un autre danger dans cette loi. Cette loi ne concerne pas seulement les réfugiés, elle concerne aussi toute personne étrangère en Suisse, et notamment les saisonniers. Parce que cette question du droit d'asile occupe au fond le premier rang dans le débat des votations de dimanche prochain. Mais les restrictions apportées aux droits des étrangers sont passées sous silence. Parfois la révision de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, décidée parallèlement à celle de la loi sur l'asile, aggrave la situation de tous les étrangers en permettant leur emprisonnement pendant une durée de 30 jours aux fins de leur expulsion du territoire suisse. Cette mesure grave n'est malheureusement pas isolée. Le 1er janvier dernier est en effet entrée en vigueur la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre d'étrangers en Suisse. Celle-ci rend par exemple encore plus difficile le regroupement familial ou la possibilité pour les saisonniers de transformer leur statut précaire en autorisation à l'année. Et comme vous savez, les saisonniers vivent déjà actuellement en détresse car séparés de leur famille ou ayant leur famille en clandestinité ou en semi-clandestinité en Suisse, cette loi les met donc presque au rang des réfugiés. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui se battent contre la révision de cette loi et qui voteront non dimanche prochain, elles se battront aussi pour l'égalité d'un même statut pour les saisonniers et pour les immigrés en Suisse, car cette loi n'est qu'un début de discrimination vers tous les étrangers et tous les saisonniers qui vivent actuellement en Suisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous demande encore une fois de faire des téléphones autour de vous si vous en avez la possibilité. Et je vous remercie pour votre participation, de quelle manière qu'elle ait été pendant cette campagne, et de votre solidarité envers les personnes qui ont cherché l'asile en Suisse.
Pour vous illustrer un peu qu'est-ce qui pourrait se passer si cette loi était acceptée, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à Genève, et c'est une véritable histoire. C'était vendredi dernier, où un groupe d'Argoviens sont descendus du train avec des habits locaux et portant une banderole où était écrit quelque chose de très très bizarre. Et ils se sont fait tout de suite arrêter par la police qui était par là parce que en même temps il y avait une manifestation contre cette révision du droit d'asile qui a hurlé « Des Turcs, vous êtes venus pour manifester avec une banderole en turc ». Alors ces Argoviens ont dû expliquer qu'ils étaient Argoviens, qu'ils venaient pour fêter un de leurs copains qui était à Genève et que leur banderole, qui disait « je peux pas vous dire parce que c'est effectivement dans une langue très bizarre », disait « Vive notre copain » et n'était pas en turc. Alors voilà, cette discrimination risque de toucher des gens un peu bizarres, toute une personne pas tout à fait comme les bons Suisses normaux dans leur propre ville. Radio Pleine Lune 93.8, nous interrompons Carla Bley et les Social Studies pour entendre un téléphone, quelqu'un en ligne qui veut nous parler de la conférence de presse qu'il y a eu contre les agissements de Bernard Ziegler. Alors, allô, tu m'entends?
Oui, je m'entends. Voilà. Je vous ai entendu tout à l'heure relater l'incident qui s'est produit à Regard CFS. Ce qui était très drôle, c'est que ce petit entrefilet, ce petit amuse-gueule se trouvait dans la même édition de la Tribune qui relatait la conférence de presse qui a eu lieu hier. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, ces Argoviens, ou plutôt ces Turcs, n'auraient pas été inquiétés s'ils avaient fait leur petite procession l'année précédente, donc en 85. Parce que on a remarqué que depuis l'année 86, les droits démocratiques, plus précisément la liberté d'expression, que ce soit le droit de manifester, le droit de distribuer des tracts, le droit de participer à une manifestation autorisée sans être photographié à bout portant, eh bien, depuis l'année 86, ça n'existe plus. Qu'il y ait Bernard Ziegler à la tête du département de justice et police, qu'il soit socialiste, qu'il se dise de gauche, on n'en a rien à faire. Tout ce qu'on a remarqué, c'est que maintenant, depuis un an et demi, le moindre petit attroupement d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes est suspect, et que même si le besoin de se bouger est urgent parce que quelqu'un va être expulsé ou parce que quelque chose de grave s'est passé, eh bien on ne peut plus le faire sans être bombardé de contravention et d'amende. Pour exemple, c'est pour ça qu'on a tenu hier avec l'Union suisse des syndicats, la coordination du droit d'asile, les manifestations Nicaragua et état d'urgence. On a tenu une conférence de presse à laquelle les lesbiennes étaient présentes aussi, puisque nous avons été les premières à bénéficier, entre guillemets, si je peux dire, de ce changement, de ce revirement total de pratique du département de justice et police. Nous, les lesbiennes, avons reçu des contraventions parce qu'on avait fait une manifestation sans demander d'autorisation, ce qu'on faisait d'habitude, et nous avons gagné notre procès. Nous avons été acquittées, mais à titre exceptionnel. Et maintenant, le tribunal de police va devoir tenir de très, 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 très nombreuses audiences, puisque, par exemple, l'état d'urgence, maintenant, totalise pour à peu près 30 000 francs de contravention. Ça va juste vendre de la bière au parc des Bastions, avoir écouté un concert au cinéma classique désaffecté, avoir fait un petit attroupement de 30 personnes. C'est insupportable. Et bon, maintenant, j'ai perdu mon fil. Oui, voilà. En fait, où je voulais en arriver, c'est qu'il faudrait qu'il y ait énormément de personnes qui se rendent à l'audience du tribunal de police ce prochain 27 avril. Je crois que c'est un vendredi à 5h. Donc tout le monde au tribunal de police, parce que figurez-vous qui va y comparaître, deux femmes, deux accusées, dame Y et dame Z, qui récemment distribuaient des tracts à l'aéroport. Donc des femmes de la coordination pour le droit d'asile, distribuaient des tracts pour protester contre le centre d'accueil qui a été mis sur pied là-bas. Alors, en fait, les flics disent très bien dans leur acte d'accusation que la distribution se passait tout à fait calmement, mais que ces dames avaient glissé des papillons sur les pare-brises des voitures du parking de l'aéroport et que certains papillons avaient, entre guillemets, souillé le bitume. Et à ce moment-là était invoqué le règlement genevois sur la salubrité publique. Alors imaginez-vous quel théâtre guignol ça va être, ces deux femmes qui vont être accusées, enfin qui contestent cette amende. Donc c'est une situation qui devient insupportable maintenant ici à Genève, surtout avec les événements qui se présentent. Alors je prie toutes les femmes et tout le monde à être spécialement attentifs à tout ça, et en tout cas de venir le 27 avril nombreux et nombreuses au tribunal de police. Voilà.
Merci beaucoup de cette information. Alors nous viendrons en tout cas, et on l'a déjà dit aussi, nous irons voter. En tout cas moi j'irai voter, j'y vais rarement, mais j'ai dit que cette fois-ci j'irai. Dimanche, promis, je vais voter non et non à la révision du droit d'asile. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Thank you. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nous écoutons le Tango Réactionnaire, une composition de Carla Bley. Et c'était cette musique qui accompagnait la délégation qui est allée voir à Berne il y a 2 semaines, Madame Kopp, en lui apportant une couronne funéraire pour une délégation qui venait donc demander que soit réglé le statut des réfugiés. Alors vous voyez, on a des bonnes références, et Madame Kopp d'ailleurs a pas du tout aimé cette musique ni cette manifestation. Elle a fermé la porte au nez de la manifestation et a prié que la couronne soit déposée chez son ou sa concierge. Alors si Madame Kopp aime pas cette musique, c'est un bon point aussi pour nous. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, dans quelques instants nous écouterons le témoignage d'une femme tamoule, une femme qui a présenté la situation des Tamouls, qui a présenté la situation du Sri Lanka pendant la journée du 8 mars dans un atelier organisé par le groupe SOFI, Solidarité avec les femmes émigrées et exilées, qui se présentait ce 8 mars avec un atelier très très intéressant sur les relations avec les femmes exilées et réfugiées et femmes émigrées également. Alors c'est un interview intéressant. La personne bien sûr n'était pas de langue française, alors nous vous prions d'excuser un peu le ton et l'accent, et en tout cas le contenu vaut la peine quand même de vous arrêter sur ce poste. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz.
Dans les jungles, et ils ont plus en détresse que des gens qui se trouvent ici. Je commence un peu en expliquant le développement historiquement, parce que le rôle de la femme a changé. Et le statut de la femme a changé au Sri Lanka avec des développements. Et pour montrer ces changements, ces différences avant le colonialisme et après, et aussi des, en regardant nos politiques de gouvernement depuis l'année 77, qui a aggravé le problème. Traditionnellement, les femmes au Sri Lanka, mais là, je parle plutôt des femmes singalais, où la société singalais a été matriarcale. La société tamoule était beaucoup plus rigide et patriarcale. Et ça c'est aussi une raison pour laquelle les femmes tamoules auront peut-être plus de difficultés se défendre quand ils ont été déplacés que les femmes singalais. Avant, le Sri Lanka a été colonisé en 1505 par les Portugais d'abord, et puis 150 ans après par les Hollandais, et 100 ans après par les Anglais. Donc pendant 450 ans, on était colonisé par des pouvoirs étrangers. Et avant, les femmes ont joué un plus grand rôle. Ils ont eu des droits d'hériter. Ils ont été plus actives dans les décisions qui concernent l'économie, les questions de la terre. Et les hommes ont joué un rôle moins important. Mais après la colonisation, les Hollandais, d'abord, ont changé ils ont introduit un système de loi qui s'est basé sur le droit judiciaire en Hollande. Alors, les hommes ont eu maintenant le droit d'héritance et plus les femmes. Et ils ont aussi dû se marier. Le système de mariage a été introduit. C'est-à-dire, pour avoir un droit, il faut qu'ils enregistrent le mariage. Et ils ont aussi introduit le concept des familles nucléaires, où l'homme contrôle, prend toutes les décisions qui concernent la vie économique, et les femmes ont été limitées dans les décisions concernant la famille, le fait de la cuisine, s'occupe des enfants. Et s'ils ont été actifs dans l'économie, c'était plutôt comme des travailleurs, comme une facteur de production, plutôt qu'un être humain ou comme une femme. Après l'introduction, avec le colonialisme, il y avait aussi le changement de système de production. L'économie était plus orientée vers l'exportation, vers les grandes plantations du thé, du caoutchouc, du noix de coco. Et les femmes ont été engagées plus et plus comme des travailleuses parce qu'ils ont gagné moins que les hommes. Et aussi les hommes, ils ont travaillé seulement comme des travailleurs saisonniers. Mais tout le travail pendant l'année était pris par la femme. Mais même si elle était elle a contribué aux économies de pays, elle n'a pas un rôle important dans la décision. Mais pendant l'indépendance, la lutte pour l'indépendance, il y avait une participation, mais une résistance plus forte de la part des femmes, mais des femmes de classe moyenne qui s'intéressaient plus pour des droits démocratiques en sens que participation dans le vote comme des individus. Et c'était un mouvement très fort, mais ils n'ont pas s'occupé des questions des femmes dans la société, des femmes dans l'économie. Et les paysannes, des femmes dans l'agriculture, ont été pas bien organisées à cette époque. Mais pendant cette période, pendant cette résistance pour l'indépendance, les femmes ont quand même gagné plusieurs droits, comme au Sri Lanka, c'était le. Des femmes ont eu le droit à voter avant, ils ont eu ces droits en Angleterre. Déjà en l'année 1931, les femmes ont pu voter. Mais avec après l'année 77, on voit un changement. Il y a Le gouvernement qui est sur place maintenant était élu en 77 et c'était un gouvernement qui était plus orienté vers l'Occident, ils ont changé le système. C'était plus une dépendance sur le système de plantation, des grandes plantations de thé, caoutchouc, tout ça, mais ils ont aidé dans le processus de changer le système de production qui était beaucoup plus important parce qu'ils ont pu s'assurer, les pays colonisateurs, les intérêts économiques étrangers ont pu s'assurer de contrôle d'économie de Sri Lanka. Pas seulement en contrôlant l'export et l'import, mais aussi par le système de production qui a été beaucoup plus difficile pour montrer la différence. C'était plus ouverte, cette contrôle, mais ils ont introduit, par exemple, le Green Revolution, la révolution verte du riz, toutes les entrants. Comme les semences, des pesticides, des engrais, tout ça, ont été importés. Mais le riz est quelque chose mangé dans le pays, au Sri Lanka. Mais on a l'impression que c'est une culture traditionnelle, mais en fait, cette culture est contrôlée par ailleurs. Dans ce processus, la culture de riz a remplacé la culture de millet. Je ne sais pas en français c'est quoi. Millet. Et le millet était produit cultivé par les femmes avant. C'était une culture traditionnelle. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre des techniques d'ailleurs. Les femmes ont aussi à l'époque contrôlé la terre. Appartenait aux femmes les terres et la production. Ils ont aussi ils ont contrôlé les marchés pour le millet et ils ont pu utiliser ou fait des décisions comment utiliser l'argent qu'ils ont gagné par cette culture. Mais après, le riz a été introduit avec cette nouvelle technologie et aussi avec le changement de droit d'héritage. Les femmes ont pu eu le droit d'avoir les terres, deuxièmement d'avoir des crédits des banques, parce que pour acheter ces entrants importés, il faut avoir beaucoup d'argent. Et c'était seulement les hommes qui ont eu le droit d'avoir des crédits. Et alors, ils ont acheté les entrants, ils ont pris contrôle de tout le système de production. Toutes les décisions, le processus de décision a été contrôlé par les hommes. Et les femmes ont été plus et plus reculées dans leur droit, dans le domaine économique, et plus concentrées dans la famille, de la maison. En plus, toutes les projets de programmes de développement qui a été dirigé par le Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour l'intérêt des grands multinationales et pays occidentaux, ils ont concentré sur les familles nucléaires, et pas aux familles des grandes familles. Qui était le normal chez nous, mais ils ont donné des crédits seulement aux petites familles, le parent, deux enfants, trois enfants, petite terre, où l'homme a pris toutes les décisions et les femmes plus, ils ont plus eu de droits. Là il y a un exemple de grands projets d'irrigation dans l'est du pays. Où se trouvent aussi les Tamouls, qui étaient financés par la Banque mondiale. Ils ont donné deux acres, trois acres aux petites familles nucléaires. Et maintenant, il y a des études qui ont été faites par des chercheuses qui montrent que des études faites par la Banque mondiale qui montrent que les familles, les grandes familles ont perdu aussi économiquement parce que ils ont pu gagner seulement assez d'argent pour une petite famille. Alors, il y avait plus de pauvreté parmi ces familles, des grandes familles. Mais il n'y a pas, même s'il y avait eu un changement dans la production, le système de production et de cette politique économique, il n'y avait pas eu un changement assez vite dans la société. Là, les gens, ils ont toujours habité, la plupart du monde, ils habitent toujours dans les grandes familles. Alors ça n'a pas aidé les grandes familles, sauf les familles qui s'adaptaient. Qui ont limité leur famille, qui ont se concentré seulement sur les familles nucléaires et qui ont fait ignorer la grande famille. Là, dans l'étude récente de Banque mondiale, ils appellent les familles nucléaires comme les familles de succès. Et les grandes familles, ça c'est des familles unsuccessful families.
Non, les
grands-pères, les grands-pères, tout ça. Pardon ?
Un projet, c'est un projet de limitation de la natalité.
Oui, aussi. C'était lié avec le 2-3 enfants pour chaque famille. Et avec aussi ce changement d'orientation économique en 77, toute l'économie était orientée vers l'exportation de devises. Là, il y avait plus et plus de secteurs développés pour des profits de grandes multinationales. Alors, on voit le développement en 77 des zones franches où les droits de syndicats étaient limités. En fait, ils n'ont pas de droit de syndicaliser dans les zones franches. Les tourismes, il y avait plus de gens qui ont émigré vers le Moyen-Orient pour trouver travail. Il y avait oui, de production pour l'export, comme Nestlé, qui ont pris beaucoup de terres dans les régions de l'Est, où se trouve ce grand projet de Banque mondiale. Les femmes ont... Il y avait plus de femmes qui ont entré dans le force de travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont eu plus de droits de décision, mais ils ont été utilisés comme un facteur de production. Parce que les grandes multinationales ont voulu aussi payer des salaires plus bas. Et pour les femmes ont été payées moins que les hommes. Là, il y a une augmentation des femmes qui sont devenues actives dans l'économie, mais sans avoir de pouvoir de décision. Mais dans toutes ces... pour exemple, quand en 77, quand les gens ont commencé à émigrer au Moyen-Orient, il y avait 1,4% des femmes. Mais aujourd'hui, ils ont déjà 53% des gens qui émigrent au Moyen-Orient comme travailleurs. Dans tous ces secteurs, on voit pas seulement l'exploitation économique des femmes, mais aussi il y a une exploitation des femmes comme femmes. Dans le tourisme, il y a les femmes sont utilisées comme des prostituées. Dans le Moyen-Orient, on voit il y a plus et plus de femmes qui ont envoyé là-bas, bon, comme housemates pour travailler dans les maisons, mais qui dans le contexte des femmes de Moyen-Orient, ils ont été exploitées par les hommes arabes. Alors on voit beaucoup de cas de viol dans le Moyen-Orient. Et il y avait un cas assez récemment d'une femme qui a été stoned, lapidée par le gouvernement en Koweït parce qu'elle avait une relation avec un Indien. Alors il y a toutes violations que les femmes doivent subir dans ce contexte. Dans les zones franches, les femmes doivent travailler les nuits parce qu'ils n'arrêtent pas la production. C'est 24 heures de production. Il y a des night shifts, le travail de nuit qui n'est pas normal pour les femmes sri-lankaises qui sont habituées au... Il n'y a pas de facilité dans notre pays pour les femmes pour voyager les nuits en sécurité, tout ça. Alors les femmes doivent habiter dans des maisons près de zones franches et ils doivent payer beaucoup d'argent pour ces chambres qu'ils louent. Et ils gagnent moins ou très peu. En plus, on voit c'est ce qu'on appelle des baby farms au Sri Lanka, où les femmes produisent des enfants pour export. C'est pour des familles occidentaux qui veulent adopter des enfants. Alors, il y a des commerçants qui exploitent cette situation. Et puis, ils payent pour les femmes pour avoir des enfants. Puis ensuite, ils ont les enfants dans cette ferme et puis ils repartent. Et avec la détérioration économique dans le pays, ils n'ont pas de choix que de continuer de cette manière. முழு நிலவானது பரவர குறைவது போனே வளர்பிறையாகி முழு நிலவானது பரவர குறைவது போனே குமரா
என் தீமைகள் சிறு சிறு அளவில் சேர்ந்த என் தீமைகள் கரையுடையா உன்னாலே பத்து திங்கள் அன்னையின் மடியில் அடங்கியிருந்தது போலே வெண்ணிறம் ராஜனில் பொன்னிறம் கலந்தால் தன்னிறம் கெடுவது போலே வெண்ணிறம் ராஜனில் பொன்னிறம் கலந்தால் தன்னிறம் கெடுவது போலே வேலா உன்னருள் மொழியில் என்பன இருளும் உன்னருள் மொழியில் என்பன இருளும் பத்து திங்கள் அன்னையின் மடியில் அடங்கியிருந்தது போலே பத்து திங்கள் அன்னையின் மடியில் அடங்கியிருந்தது போலே உன்னை பார்த்ததும் என் உடல் குறுகுது முருகா பணிவோம் என்னும் நினைவாலே பணிவோம் என்னும் நினைவாலே.
Alors, le problème, le conflit ethnique s'est aggravé aussi à cause de ces développements qu'on voit, des développements économiques, parce qu'on voit, il y a deux côtés. Dans le sud, les gens se sentaient plus et plus aliénés. Ils ont désintégré et ils ont cherché une identité et puis on voit souvent que les gens ils tournent vers les valeurs traditionnelles pour échapper à cette situation qu'ils confrontent. Il y avait un développement dans le sud d'une conscience ethnique. Et c'était facile pour les politiciens qui ont voulu exploiter cette situation d'aggraver cette conscience et puis la tourner contre les minorités tamoules. Les tamouls ont été, le peuple tamoul dans le nord et l'est ont été atteints par ces développements par plusieurs façons. Parce que comme ils ont une minorité et comme ils n'ont pas un droit, comme un groupe, ils n'ont pas un droit de groupe et ils n'ont pas assez de poids dans la décision politique. Et à cause de ça, les gouvernements, ils ont commencé de prendre la terre des Tamouls dans l'Est pour ces grands projets de développement. On trouve le projet de Maravelli, le projet d'irrigation que j'ai mentionné avant, de Banque mondiale, se situe dans l'est du pays. Alors, ils ont amené des paysans singalais qui n'ont pas eu de terre dans le sud parce que c'était, leur terre était utilisée pour les grandes plantations ou pour les multinationales. Ils ont amené ces gens, paysans singalais, déplacés dans l'Est. Et ils ont chassé les Tamouls de leur terre. Et au même temps, on voit aussi dans le nord du pays, avec des concurrences pour l'emploi dans le sud. Ils ont dû limiter le gens qui cherchent le travail. Ils ont introduit des règles ou des pratiques pour discriminer contre les Tamouls dans l'emploi ou pour aller dans l'université. Et comme ça, créer plus de place pour la majorité, parce que toutes les partis politiques sont dépendants de votes singalais pour être dans le gouvernement. Alors, ils ont utilisé toujours cette différence ethnique pour des raisons électorales. Alors, on voit aussi pour ces raisons économiques une résistance dans le nord et l'est, parce que les Tamouls ont été plus victimisés que des gens du sud, même s'il y avait une discrimination ou une marginalisation dans le sud. Ça c'est le background un peu de problèmes ethniques qu'on trouve maintenant. Avec la résistance tamoule, le gouvernement a introduit toutes sortes de gammes de législations, d'état d'urgence, l'acte contre le terrorisme, pour supprimer cette résistance. Mais résistance pas seulement des Tamouls, mais aussi des résistances du Sud qui a développé lentement, mais qui n'était pas très fort, parce que les contradictions entre les Tamouls et les Singalais étaient plus grandes. Je ne sais pas si je m'explique bien là. On voit les résistances armées qui a développé après les années 77. Ça commençait déjà en 72-73, mais ils ont pu élargir après 77, parce qu'il y avait plus de Tamouls qui se sentaient discriminés. Et en plus, on voit en 83, les partis politiques tamouls, le seul parti politique a été interdit. Il y avait plus de possibilités pour les tamouls de s'exprimer par des moyens parlementaires. Alors ça a augmenté et renforcé les mouvements de libération, de la lutte armée. L'impact de ce conflit dans la vie de peuple tamoul, et plus spécialement sur les femmes, était grand. Il y a tout un changement. Les jeunes garçons, ils sont allés dans le mouvement de libération, où ils ont, à cause de répression, ils ont quitté le pays. Les femmes sont restées à la maison. Et ils ont dû s'occuper de famille, de production, parce qu'il y a, plus d'hommes qui ont été à la maison de s'occuper, sauf les vieux. Mais aussi il y avait un changement dans le système, dans les questions de mariage, les sociétés tamoules, comme étaient très patriarcales, les pères, ils ont organisé le mariage quand les femmes sont assez jeunes. Mais maintenant, tout a changé. Il y a moins des femmes qui se marient quand ils sont toujours jeunes. Et aussi, il n'y a pas assez d'hommes dans le pays pour marier. Ils ont... oui, alors pas seulement ils ont, il y avait un changement dans leur vie économique et sociale, mais aussi il y a plus de femmes qui ils ont commencé de s'engager dans différentes formes de lutte qu'ils ont dû développer à cause de répression de leurs hommes et aussi la répression que eux-mêmes ils ont subi. Comme ils ont, c'était les hommes, les femmes qui ont resté à la maison, et c'est les femmes qui ont dû aussi confronter avec les militaires qui sont venus chercher les hommes à la maison, parce que les hommes ils se cachent, les femmes restent à la maison. Et puis ils ont été subir toutes sortes de violations, des abus par les militaires. Les militaires, il y a beaucoup de femmes qui sont prises comme otages par les militaires parce qu'ils veulent que leur mari ou leurs enfants se rendent aux militaires. Il y a des cas de beaucoup de cas de viol par les militaires, même des gang rape, qu'on dit une femme violée par 4-5 soldats. J'ai ici dans le document qui était publié il y a 2 semaines pour la commission droits de l'homme sur la question de torture et détention. Et là, il y a des affidavits des femmes qui parlent des témoignages qui parlent de ces gang rapes. Et ils ont aussi subi quand ils les amènent aux détentions, ils ont aussi violé ou ils ont humilié avec toutes sortes de menaces. Même s'ils le touchent pas, mais ils le menacent avec toutes sortes de choses. Et dans les maisons aussi, quand ils venaient chercher les hommes, ils tuent des hommes devant les femmes. Et puis ils partent, ils le laissent, puis ils partent. Et c'est les femmes qui doivent se confronter avec ces problèmes. J'ai pensé avant de lire, citer quelques parties de ces témoignages, mais je pense que ça prendra trop de temps si je commence à faire ça. Je ne sais pas si c'est... Une partie sur le gang rape, il y a une femme, Mangalesvari, de 20 ans, qui dit que le 5 décembre, elle était à la maison avec son mari et sa fille de 11 ans, et l'armée sont venues, il y avait 10 soldats qui sont venus, ils ont amené le mari, puis ensuite 5 soldats ont violé cette femme, puis elle a perdu conscience, et puis elle se réveillée 6 heures après. Puis elle avait eu un enfant seulement 3 mois avant. Il y a toutes des cas comme ça. Dans le c'est une autre femme dans le en détention qui disent. Je peux citer en anglais ou c'est mieux en français? Ok. Um, C'est une femme qui parle d'autres, de ce qu'elle a subi et aussi ce que d'autres femmes ont subi dans le camp de détention dans le sud. Et puis elles disent que Miss So-and-so was brought to Busa camp and put in our enclosure one day in March 86. She had wet marks all over her body. She could not sit on the floor. She told me that she was unable to squat. When we pressed her for the reason, she said she had been stripped naked and the baton which police used had been forcibly thrust into her vagina by a policeman from the Mutur police. That as a result, she felt severe pain in the region of her sexual organ and was unable to sit. Un pour exemple.
Madame Untel a été amenée au camp Busa et a été enfermée là en mars 1986. Elle avait des marques de coups sur tout le corps. Elle ne pouvait pas s'asseoir par terre. Elle m'a dit qu'elle était pas capable to squat. Qu'est-ce que c'était?
De
s'accroupir. Quand nous l'avons pressée de dire pour quelle raison, elle a dit qu'elle avait été déshabillée et que le bâton que utilisent les policiers avait été forcé dans son vagin par un policier de la police Mutur. Le résultat en était qu'elle avait des peines très sévères dans la région des organes sexuels et qu'elle était qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle nous dit ensuite que 14 autres filles de sa région avaient été attrapées par la police Mutur avec elle et qu'elles avaient été déshabillées et violées par ces policiers.
Alors, il y a tout des témoignages faits par des femmes de ce genre. Mais ce genre de violation n'est pas considéré ici. Quand ils venaient ici, des femmes, pour demander l'asile, ça s'est pas pris en considération. Si ils ont pas eu une activité politique ou si elle peut pas montrer que c'était à cause de quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a été détenue. C'était parce que pour la plupart des cas comme ça au Sri Lanka, ils n'ont pas été arrêtés parce que ils ont fait quelque chose, une activité politique, mais parce que peut-être ils cherchent leur mari ou leurs enfants ou parce qu'ils ont été amenés, arrêtés dans une rafle. Parce que toutes les jeunes ont suspect d'être terroristes dans le nord et de l'est. Alors ils ont pas, ça s'est pas pris comme une raison, ça suffit pas pour avoir un droit de l'asile. J'aimerais bon, il y a vraiment des listes, des choses comme ça, qui n'est pas nécessaire de citer, mais c'est une pratique systématique et qui arrive systématique et persistant. C'est pas quelque chose qui se passe de temps en temps à quelques gens. Et puis c'est tout, mais c'est une partie de la politique du gouvernement sri-lankais pour terroriser les gens, des femmes ou des hommes. Pour comprendre pourquoi c'est systématique, il faut le lier avec toutes ces gammes de législations introduites par le gouvernement qui donnent tous les pouvoirs aux militaires de faire n'importe quoi et s'échapper parce qu'il n'y a pas des enquêtes judiciaires faire sur ces incidents et il n'y a pas des moyens de recours à ces femmes ou ces hommes pour changer. L'acte contre le terrorisme permettre de détention incommunicado pendant 18 mois. C'est plus long que l'acte pareil en Afrique du Sud. Et c'était condamné par toutes sortes d'organisations aux droits de l'homme connues comme Amnesty ou comme la Commission internationale de juristes. Détention, il permet aussi que, pendant cette détention, il permet que la torture peut être utilisée pour avoir des confessions, pour l'utiliser contre eux dans des processus judiciaires. Alors, ils peuvent utiliser toutes sortes de confessions. Et cette loi permettre ce genre de violation. Et comment est-ce que c'est possible? Une chose qui est importante aussi, le paramilitaire qui se trouve dans l'est du pays est le plus connu pour ce genre d'incidents, ce genre de torture, de violation. Groupe s'appelle Special Task Force. Et c'est des commandos qui ont été entraînés par les Special Air Services, des officiers de Special Air Services, c'est des services anglais, d'Angleterre. Le gouvernement sri-lankais, il emploie ces gens par une compagnie privée, anglaise aussi, et c'est 3 jours, il y a 2-3 jours, il y a il y a un scandale en Angleterre actuellement, parce qu'il y a 63 mercenaires, ça c'est des gens de SAS qui sont allés au Sri Lanka pour entraîner le Special Task Force. Ils ont rentré, les 63 parmi eux ont rentré, puis ils ont dénoncé la politique du gouvernement sri-lankais en disant qu'ils ne savaient pas qu'ils ont été envoyés au Sri Lanka pour entraîner les soldats pour massacrer les gens. Six camps, c'est les mercenaires qui le disent. Ça veut dire que les violations sont très graves. Pour venir aux questions des réfugiés, les réfugiés qui viennent ici en Europe, c'est pour la plupart des Tamouls du nord de pays, et il y a moins de gens qui venaient d'est, des Tamouls de l'est. Et il y a une différence culturelle entre les Tamouls du nord et les Tamouls de l'est. Les Tamouls du Nord sont plus de classe moyenne, qui ont une tradition qui se trouve autour des cultures, des temples. C'est des castes plus hautes. Et dans l'Est, les Tamouls sont des paysannes, plutôt des paysannes. Mais eux, ils n'ont pas d'argent de sortir, ou ils n'ont pas de contacts ailleurs, tout ça. Mais c'est des Tamouls moins traditionnels. Les Tamouls qui viennent ici des femmes, ils se trouvent à cause aussi de leur tradition stricte, ils se trouvent encore plus dans une situation de choc quand ils viennent ici. Et ils se sentent très, très isolés. Et ils essayent d'échapper de cet isolement. Ils essayent souvent soit ils venir ici parce qu'ils ont un ami et qu'ils veulent marier ou un frère, mais souvent il y a aussi des femmes qui viennent ici seules, puis pour échapper de cet isolement, ils sont prêts de marier quelqu'un, de trouver n'importe quelle solution. Ils ont, j'ai connu des cas des femmes qui sont venues de Berlin, par Berlin, pour trouver leur mari ou leur frère ici dans d'autres parties d'Europe. Et puis il y avait d'autres Tamouls, hommes réfugiés, qui sont aussi isolés, alors ils essaient de trouver une femme tamoule pour marier. Ils le gardent à Berlin, et puis ils ont violé. Il y avait plusieurs cas comme ça, qui sont des femmes qui ont été violées par les autres tamouls. Et puis après, ils ne peuvent plus, plus continuer. Alors, il faut qu'ils se marient. Et ils n'ont pas de choix, pas d'autres moyens. J'étais là. En plus, ces femmes ont été aussi utilisées par les commerçants de drogue. Les femmes qui partent de Sri Lanka parce qu'ils ont violé ou quand ils sont en Inde, ils ont été utilisées comme prostituées. Et parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils font pour gagner d'argent. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur société.